On considère qu'il y a un vrai problème de prise en compte de l'impact des violences sexuelles sur les femmes. Finalement, on considère que c'est un rapport sexuel non consenti, il n'y a que les baisses, il n'y a pas mordant. Et on ne se rend pas compte, je pense qu'on ne prend pas la mesure de tout le chamboulement que ça peut créer chez les femmes qui en sont victimes. Tout le chamboulement psychologique, du désastre et du désordre que ça va créer dans leur vie, toute leur vie. Et ça,
Et qui va se répercuter sur ce qu'elle va avoir
qui va
comme
se
vie derrière.
répercuter sur toute leur vie, sur leurs enfants, sur
Bien sûr.
voilà. C'est un séisme. Et tant qu'on ne le décrit pas, tant qu'on ne forme pas les parties prenantes et les personnes qui sont amenées à statuer sur ces questions-là, eh bien, on continue d'alimenter le problème.
Bonjour, مرحبا بكم في صرخيتي. صرخيتي هو اول تولك شو فيمينيست دار باش نهضروا على كاع المواضيع اللي كيخصوا النساء بلا خوف بلا تابو وبلا حتى شي حشومه. حنا اليوم في سيزون 2 بدلنا الديكور واخترينا اننا نكونوا اون وان تو وان مع لي زانفيتي ديالنا باش نقدروا نتعمقوا في المواضيع ونهضروا عليهم على راحتنا. في هذا الابيزود اختارينا ندويو على واحد لا بروبليماتيك مهمه اللي هي كيفاش يمكن لينا نلوتيو كونتر هذوك لي فيولونس سيكسوييل و سيكسيست اللي كيداروا ضد المراه في المغرب في بلادنا. باش ندويو على هذا الموضوع معنا ليلى سلاسي افوكات وكوفونداتريس ديال واحد لو كوليكتيف وموفمون سميتو ما ساكتاش. وملي تنسمعوا ما ساكتاش تنفكروا اوتوماتيكمون في ليلى وفي دوطخ كوفونداتريس اوسي. ديجا باش تبروبوز ان كافي تشينو
ليتس جو.
شرحي لينا شنو هي ما ساكتاش، كيفاش بدات، كيفاش دارت؟
بدات ما ساكتاش ان 2018. En 2018, qu'on a fait Twitter, ou qu'on a avec voilà un groupe de tweetas, des femmes qui tweetent. Et ça, ça a démarré des tweetas, bah oui. Qui les tweetos, qui les tweetas. En fait, c'est parti avec l'affaire Khadija. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. C'était une jeune femme qui avait fait l'objet et qui avait été mise en situation de très grande violence. Elle avait été séquestrée, kidnappée. Elle avait fait l'objet de multiples viols par une bande de plus d'une quinzaine de garçons. Majeur, il y avait un ou deux mineurs, je crois, un mineur, pendant plus de 3 mois, elle a été tatouée.
Ouais,
et ça, c'est une affaire...
Absolument.
Et puis, elle a réussi à s'échapper, et elle a eu le courage, alors qu'elle était mineure, elle avait 17 ans, elle a eu le courage d'aller porter plainte. Vraiment, c'est une affaire qui m'a particulièrement interpellée, qui a interpellé beaucoup de femmes sur Twitter qui se sont indignées tout de suite, parce qu'on voit, en fait, ces tatouages sur son corps, ça renvoie à l'idée que la femme est un objet, on en fait ce qu'on veut. Donc elle a été complètement objectivée dans le cadre de cette agression, qui a été d'une très grande violence. Ouais. Et là, ce qui a été incroyable, c'est qu'avec ce niveau de violence, avec ce niveau de haine qui s'est abattu sur elle, il y avait encore des personnes qui osaient remettre en question son témoignage. Il y avait encore des personnes qui publiquement l'ont fait, et sur les réseaux sociaux... même des journalistes,
ouais.
On dit crédibles, étaient là en train de remettre en question son témoignage, en train de dire que ses tatouages étaient antérieurs. Enfin, il y a eu toute une polémique.
Ouais. Toujours une remise en question,
en fait, de la parole de la victime. C'est quelque chose de très classique qu'on voit dans tous les pays. Voilà. Donc,
du coup,
Nehdabdet. Donc là... On voyait sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, eh bien des femmes qui réagissaient pour la défendre en disant mais comment on peut se permettre de remettre en question son témoignage, sachant que la gendarmerie a fait un travail exemplaire. La plupart ont été interpellées directement, ont été mises en détention provisoire et ont reconnu les faits. C'est-à-dire que là, on est dans une situation où on remet en question la parole de la victime, dans une situation où elle a subi une violence inouïe et où ses agresseurs eux-mêmes reconnaissent ce qu'ils ont fait. Mais par contre, l'opinion publique, les réseaux sociaux, au final, Hadra, vas-y, ou qui fait, je sais comment elle s'est retrouvée. Et en fait, elle a suivi quelqu'un.
Vous étiez combien à...
On était 4 à lancer, le collectif.
Ouais.
Et puis très rapidement, on était une douzaine à s'activer, hommes et femmes d'ailleurs, au sein du collectif, à s'activer sur les réseaux sociaux et à lancer des campagnes. La dynamique de Mes Actages a évolué. C'est-à-dire qu'effectivement, au début, il y avait tout cet engouement et beaucoup de campagnes sur les réseaux sociaux.
Sfara, par exemple.
Sfara,
moi, c'est celle qui m'a marqué le plus.
Bien sûr. Ouais. Sfara, on a décidé de lancer une campagne sur la question du harcèlement de rue et qui intervenait pile au moment où la loi 113 venait de sortir. Ouais. Cette loi est sortie Elle a fait l'objet d'une certaine communication, mais nous, on a estimé qu'on avait un rôle à jouer pour amplifier. Et donc, on est sorti dans les rues avec un petit sifflet, le texte de loi, en disant aux femmes, il a de ça, et c'est ce qui s'est passé. On a fait ça dans plusieurs villes.
C'est magnifique.
Ça a été un vrai moment de sororité, un vrai moment de militantisme féministe.
Top, c'est magnifique. Ana san arfak personnellement, ولكن d'autres personnes ma tiarfouch. Donc, je vais juste te demander un petit peu de te présenter ce que tu fais dans la vie. Alès, tu as choisi d'être avocate. Qu'est-ce qui t'a poussée, qu'est-ce qui t'a encouragée derrière?
J'ai 38 ans, je suis maman de 3 filles. Je suis avocate au barreau de Paris. J'ai monté mon cabinet au Maroc il y a en 2016-15. Je suis rentrée en 2014 de Paris et je me suis tout de suite engagée au sein de la société civile dans divers, disons, pans du travail associatif qu'on peut faire ici.
Alors, j'ai regardé à l'engagement féministe direct. Moi, tu sais, en fait, ninja de l'engagement. Quel est l'élément déclencheur qui a fait que tu t'es dit... C'est pas possible, en fait, la situation des femmes au Maroc, elle doit absolument changer.
Ouais. Pour être tout à fait sincère, je ne suis pas née féministe.
Tu as eu ton éveil.
Voilà, on a tous eu un moment.
Ça refait quoi le féministe?
Absolument. Et c'est intervenu très, très tard. Moi, j'ai grandi dans une famille de filles. On est 4 filles, ma mère avec ma maman. Mon père était le seul homme dans la maison. Il y avait 9 femmes et un homme dans cette maison, c'était mon père. Et du coup, moi, j'ai grandi avec la conviction, qui était parfaitement erronée, que c'est les femmes qui dirigent, que c'est les femmes qui... voilà, que la parole de la femme est importante, que j'ai jamais ressenti d'aklhagra. Tout simplement, peut-être j'aurais eu un frère, les choses auraient été différentes, mais j'en doute. J'avais un père plutôt féministe, ma mère évidemment aussi. Donc j'ai grandi dans un environnement très bienveillant et très, voilà, pour lequel la question de nos droits en tant que femme ne se posait absolument pas. Puis quand j'ai intégré le monde du travail en France, c'est là que j'ai commencé à ressentir du sexisme. C'est-à-dire que dans les cabinets d'avocats que j'ai pu intégrer, soit en tant que stagiaire, soit en tant que collaboratrice, je voyais une différence de traitement quand même. Je voyais aussi une évidence, c'est que les femmes n'arrivent pas au poste de direction. On était dans la fac de droit majoritairement des femmes qui suivent ce parcours. Oui. En revanche, quand tu vois la pyramide des cabinets d'avocats, tu as des jeunes juniors qui rentrent et puis petit à petit, les femmes commencent à disparaître et ne sont pas associées des cabinets et sortent de la gouvernance. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Pourquoi elles désertent?
Pourquoi?
Eh bien, parce qu'il y a tout un tas d'embûches dans le parcours de la femme qui fait qu'à un moment, elle doit faire un choix entre sa carrière et sa vie personnelle. Et en général, parce qu'elle a toute cette charge mentale, toute cette responsabilité des enfants, de la famille, eh bien, elle fait le choix. C'est même pas véritablement un choix. On lui laisse pas tellement de choix.
Exactement.
Et donc, elle va laisser de côté sa carrière pour se concentrer sur
sa vie de famille.
Sa vie de famille.
Et tu as dit tout à l'heure que Ma Sexèche a été associée au mouvement MeToo parce que Ken Ben, 2017-2018, l'affaire de Weinstein. Quelle a été ta réaction?
C'était libérateur, en fait, de voir toutes ces femmes déjà se solidariser. Parce que ça, c'est très beau. Et moi, s'il y a vraiment quelque chose.
Voilà.
S'il y a vraiment une notion dans les luttes féministes qui me parle et que je trouve d'une puissance incroyable, c'est cette question de sororité. Moi, c'est déjà ça qui m'a interpellée, c'est de voir cette solidarité entre les femmes, de dire moi aussi, tu n'es pas seule, moi aussi, me too. C'est venu de là et du coup, ça a révélé au monde ce silence, cette chape de plomb et ces comportements qui avant étaient plus ou moins
tolérés.
Ouais. Mais enfin, c'est même pas le bon mot. Était invisible en fait. Ouais. Invisible.
Je pense que c'était même pas questionné.
Voilà, c'était pas questionné.
C'était tellement normal.
C'était naturel. Ouais. Et donc ça a été un coup terrible porté au patriarcat, avec une force extraordinaire qui a émané de femmes, avec des soutiens, beaucoup de soutiens d'hommes qui ont dit d'ailleurs, waouh, on découvre. Nous, toutes les femmes savent de quoi les autres parlent. On s'est toutes retrouvées. Il n'y a pas une femme qui ne s'est pas retrouvée dans une situation de harcèlement, voire d'agression. Toutes. Et donc, on sait de quoi elle parle. Il y a cette sororité qui fait que, OK, je sais de quoi tu parles, je sais ce que tu as ressenti. Donc, on l'a exprimé. Les femmes qui ont eu le courage de parler au moment de MeToo l'ont exprimé. Et beaucoup d'hommes qui ne voyaient pas ça parce que c'est des comportements pernicieux, très invisibles, ont pris conscience et ont pris toute la mesure de la problématique. Alors après, quand Ma Sexèche a commencé à être associée à MeToo, c'est un parti pris, mais MeToo, c'est pas Ma Sexèche. Et Ma Sexèche, c'est pas MeToo. Ma Sexèche, c'est vraiment un cri du cœur au Maroc, des réalités marocaines, de ce que vivent les femmes marocaines, qui doivent faire face à un système de dysfonctionnement.
Bien sûr.
Qui est universel parce qu'on le retrouve partout
même
dans le monde.
Voilà,
en Amérique latine, aux États-Unis, en France, enfin, dans tous les pays, on a cette difficulté. Mais à chaque fois, c'est spécifique. Et donc, avec Ma Sexèche, on a véritablement essayé de se pencher sur qu'est-ce qui fait le fond, qu'est-ce qui est l'essence, sur quel sujet il faut s'attaquer, précisément du fait de notre marocanité
et
du fait de notre culture marocaine. Et donc, on s'inscrit dans un mouvement international, évidemment, parce que des MeToo, des conséquences de MeToo, on en a vu partout. Mais ça, c'en est certainement une. Je ne sais pas si ce collectif aurait vu le jour, si on était, si cette, mais je
on
sais
pas.
On
n'était
pas porté. J'en suis pas certaine, mais en même temps, ce serait possible.
Alors, justement, tu as dit que beaucoup de gens ont réagi. Est-ce que dans ton entourage, il y a eu des femmes marocaines qui ont réagi aussi à MeToo ? Ou là, c'est passé ?
J'ai l'impression que l'onde de choc, elle est arrivée chez nous après. Sur le coup, c'est resté un mouvement très occidental. D'ailleurs, au début, c'était un mouvement limité au milieu du cinéma. Et puis, petit à petit, il y a eu l'onde de choc a commencé. Mais ça s'est fait de manière, j'ai l'impression, que ça s'est fait de manière un peu graduelle, comme ça.
Progressive.
Au Maroc, on a vu ce super mouvement au niveau des universités pour dénoncer le harcèlement dans les universités. Voilà. Et donc, et ça, c'est très récent. Donc, en fait, ça continue. Et ça, c'est comme une étincelle et qui a mis un petit peu de temps à diffuser et continue de diffuser.
Moi, je dis toujours que MeToo, ou tous les mouvements qui sont autour de MeToo, balance ton porc, etc. En fait, c'est comme des cliffetiers, là, tu vois, que tu as
Absolument.
Lu et qui va finir par faire exploser la TNT, tu vois, derrière. Et en fait, j'ai l'impression que les femmes se disent « Ok, ben, y en a une qui en a allumé, j'allais toujours être fille, là. Pourquoi pas moi ? Moi aussi, je vais y arriver. »
Exactement.
Vois. Et c'est ça que je trouve ouf, en fait, et magique dans des mouvements comme Massacre. Alors justement, Massacre, je n'ai pas l'impact les attaches, en fait. Par exemple, en termes de témoignages que vous avez reçus, que vous avez diffusés.
C'était très dur de faire cette campagne. Vraiment, c'était une campagne... assez traumatisante. On avait lancé un appel à témoignages en invitant les femmes victimes de violences à nous écrire en privé et en relayant leurs témoignages, en les anonymisant dans les trois langues, français, anglais, arabe, sur notre plateforme. On a reçu énormément de témoignages.
Tu peux quantifier ?
Je pense plus d'une soixantaine sur une courte période.
Ouais.
Et à chaque fois, ce qui revenait dans les témoignages, c'est les femmes qui disaient « c'est la première fois que j'en parle », souvent. C'est la première fois que j'en parle et c'est très libérateur. Ce qui revenait aussi souvent, alors les membres du collectif étaient, on a travaillé sur les traductions de ces témoignages, du coup tu rentres vraiment dans le cœur du témoignage pour essayer de le comprendre,
bien
c'est ça qui était assez dur à faire. Et donc déjà je salue le courage de toutes ces femmes qui ont écrit, qui ont mis par écrit leur expérience, souvent traumatisante. Et ce qui était aussi assez intéressant, c'était de voir les réactions à ces témoignages. Souvent, c'était des réactions assez bienveillantes. Parfois, des réactions extrêmement maladroites. Ce qui nous a poussé aussi, avec le collectif Massacre, à préparer des visuels pour sensibiliser sur la manière dont on accueille un témoignage d'une personne victime de violence. C'est très important. Comment ce témoignage est accueilli
Justement, il y a tout ce qui est « do and don't »,
sans faire d'injonctions, mais l'idée, c'est de faire des recommandations. Justement, les injonctions, quand une femme, et ça peut arriver à toute personne qui nous écoute, vient se confier à vous, une sœur, une amie, une voisine, une collègue, d'une agression, la manière dont vous allez accueillir ce témoignage est vraiment déterminant dans le parcours que cette personne en situation de violence va suivre. Il faut accueillir ce témoignage avec, déjà en saluant le courage de la personne qui en parle, parce qu'il faut prendre conscience de l'effort que ça suppose d'en parler. Et puis ensuite, avec énormément de bienveillance, sans dire « Ah oui, mais tu devrais aller porter plainte, tu dois oublier cette histoire. » Enfin, votre rôle n'est pas de donner des conseils, votre rôle est d'écouter. D'écouter, de prendre la mesure de ce qui vient d'être dit et de laisser un moment pour digérer.
Ouais.
Et ensuite vient l'action. Mais déjà, cette phase d'écoute est hyper importante.
Oui. Asseoir, en fait, le fait que Rani Smetik.
Rani Smetik ou bravo Elik.
Ouais.
Ou bravo Elik. Ou Khudouktik. Il n'y a pas d'urgence. Prends le temps, bien réfléchir. Et c'est des phases qui sont importantes parce que si la femme qui vient de subir une agression se livre tout de suite après et vient en parler après, c'est une phase critique pour la collecte de preuves. Si elle décide, et là encore, il n'y a aucun jugement.
Ouais.
On peut décider de poursuivre l'affaire en justice comme on peut décider de ne pas la poursuivre. Il n'y a pas d'injonction à donner à ce niveau-là. Mais si elle décide de donner une tournure judiciaire, c'est un moment très important pour la collecte des preuves.
هترسينا في الأول منين يلا دخلتي الخدمة على les différents types de violences auxquelles une femme peut être exposée. Alors justement, نبداو بلا ديفينيسيون ديال الشيء اللي تندويو عليه. شنو هما les violences sexistes et sexuelles du coup Comment on peut les définir?
Alors,
on les associe au genre, au quinsmium sexiste ou sexuel.
Alors, c'est toutes les violences qui vont être dirigées contre une femme parce qu'elle est une femme.
Ouais.
Donc, c'est toute forme de violence. Elles vont prendre plusieurs formes. Mm-hmm. Donc, on a celles qu'on connaît le plus, les violences physiques.
Ouais.
On a les violences sexuelles. On a aussi les violences économiques, des violences mentales, mentales,
psychologiques.
C'est le harcèlement psychologique, ouais. etc. Et une nouvelle forme de violence dont j'aimerais parler, qui est les violences numériques. Il y a une super association qui fait un travail magnifique sur cette question-là, c'est l'association ATEC.
Et on a reçu Bouchra Abidouf un épisode.
Et vraiment toute l'équipe d'ATEC,
Bouchra,
Zahia et Mehdi, tous font un travail extraordinaire sur cette question des violences numériques, qui pendant très longtemps a été considérée comme une violence, c'était un espace de violence. On disait, voilà, la femme, elle subit des violences, donc il y a la forme, et puis il y a les violences subies dans l'espace public, les violences domestiques, les violences sur le lieu de travail et les violences numériques. Mais en fait, les violences numériques ne sont pas un lieu de violence, c'est pas un espace de violence, c'est une forme à part entière, parce que la violence numérique, elle a un impact, elle a un retentissement tel que quand les femmes voient, vous donne des exemples, des vidéos d'elles ou des photos d'elles diffusées largement sur les réseaux sociaux, sur les groupes WhatsApp, eh bien, certaines, et ATEC a fait un formidable travail d'écoute et de recensement, certaines vont attenter à leur vie parce que, vont faire des tentatives de suicide, parce qu'il y a cette honte associée à la diffusion. Et donc, aujourd'hui, de plus en plus, on considère que c'est une forme de violence, la violence numérique, et elle prend des proportions incroyables. Voilà. Donc, différentes formes. Différentes formes. Il ne faut pas penser que les violences faites aux femmes, c'est uniquement les violences sexuelles. Ça peut être toutes ces formes. Il y a aussi ce qu'on appelle les violences institutionnelles. Les violences institutionnelles, bah, c'est finalement ces violences qui sont du fait de l'application de la loi. Et il y en a. On a plein d'articles qui criminalisent certains comportements des femmes ou une manière d'accueillir ces femmes et le parcours qu'elles vont avoir au moment du dépôt de plainte. Ça peut être considéré comme des violences institutionnelles.
Mm-hmm. Parmi les formes de violence, les deux types, il y a la violence économique. Est-ce que tu as ce que c'est pour nous
ouais, c'est très important, la violence économique. C'est extrêmement important parce qu'en situation de crise, c'est toujours les femmes qui prennent cher, les premières. 21% des femmes sont actives au Maroc. Ouais. Donc, ont une activité économique.
Ils se traînent les hommes,
Le reste, c'est des femmes qui travaillent, mais qui en réalité ne sont pas rémunérées pour leur travail. Mmh. Il y a une énorme... la place de la femme dans le marché du travail, au Maroc, on fait partie des derniers pays au monde par rapport au taux d'insertion professionnelle des femmes. Pourquoi les femmes sont absentes de nos entreprises? Pourquoi elles sont absentes du monde professionnel? Et c'est lié, on s'est rendu compte que c'était lié à plein de biais du genre qui pèsent sur elles lorsqu'elles intègrent le monde du travail.
Mathélène,
tu vas intégrer un boulot et tout de suite, on va se dire, une jeune femme, par exemple, elle va partir en congé maternité, elle va être placardisée. Donc, la question aussi de la conciliation vie privée, vie pro, va avoir un impact sur son évolution à elle dans cette entreprise. Voilà, donc aussi, une femme qui va aller demander une augmentation, c'est moins bien vu qu'un homme qui va aller demander une augmentation. On sait partout dans le monde, et on le sait pour le Maroc, il y a une grande différence entre les rémunérations. À travail égal, il n'y a pas de salaire égal. Voilà, ce sont toutes ces questions-là qui rentrent dans le scope des violences économiques auxquelles font face les femmes.
Mais si je devais simplifier, Mathélène, on peut considérer comme étant violence économique, Mrali Katfir Fisbah, ou Katlkaraj Lamach, Lachliha Msrouf.
Là, parce que Hadel Mara elle rate.
Ou les hiddou les.
Là, parce que il faut voir Hadel Mara chtedde. Hadel Mara la nhar kamel rate tedmer.
Bien sûr.
Gratuitement.
Évidemment.
Voilà, c'est ça la violence économique.
Okay.
C'est qu'elle est pas rémunérée pour ça. Ama wakhli la wala ma khli la chouq hadak. Mais c'est ça, c'est-à-dire que il y a Hadel Mara kamel. Et en réalité gratuitement. Donc on prend.
Je te pose la question volontairement parce que bzaf dial nass li autour de moi, mais qui sont en violence économique, tu es associé forcément à rajel ma khlach msrouf, à ma saftch liha l'flous, à ma.
Là où elle kaid,
en fait non.
Mais ça c'est un dysfonctionnement, c'est-à-dire que les femmes se retrouvent dans une situation où tu ekono talina ala had l'âge li ghayati lhom l'flous, raha hadi fiha mouchkil.
Exactement.
C'est aslan علاش طالع عليها علاش طالع عليها. Alors que tu es khdama, alors que tu crées de la valeur, alors que ce que tu fais a de la valeur. Donc, ça met la femme dans une situation de dépendance économique qui est en soi une violence.
Bien sûr. Et du coup, à ton avis, les différentes formes de violences ont tendance à se renforcer les unes les autres. Est-ce qu'on peut parler, le cadre de violence économique, d'une association avec la violence institutionnelle? Parce qu'il y a dans l'absolu, le marama katkhallach ala tamara li katdrab fi
dar. Absolument, absolument. Donc là, c'est finalement notre économie qui est à remettre en question. Ouais. Comment on appréhende, est-ce qu'on offre une couverture sociale aux femmes qui travaillent dans les champs gratuitement pour voilà, et qui ont une activité dans l'agriculture, qui ont une activité qui contribue à l'exploitation, mais en réalité, madame, aucune. Voilà. Donc ça commence à être pris en compte avec la généralisation de la couverture maladie. Mais c'est ces débats-là, c'est-à-dire que la femme économiquement est vulnérable dans notre pays. La femme économiquement est mise dans une situation de dépendance par rapport à son époux qui la vulnérabilise et qui va alimenter ce cycle de violence. Lorsqu'elle est vulnérabilisée, lorsqu'elle est, on va dire, qu'elle est considérée comme étant moins, un sous-homme, eh bien elle va faire l'objet de plus de violence que lorsqu'elle est indépendante, lorsqu'elle est indépendante. Voilà, elle est respectée. Donc cette notion de violence économique, elle est fondamentale d'ailleurs dans le rapport qu'a fait ONU Femmes pendant le confinement. Cette notion de violence économique était au centre des appels reçus par les organisations, les associations qui ont mis en place des centres d'écoute pendant le confinement. Les femmes évoquaient énormément de situations de violence économique.
La violence qui est fausse le couple ou la fausse la famille. C'est donc le domicile ou le premier lieu
absolument c'est le premier lieu où s'exerce la violence contre les femmes. C'est le lieu, c'est l'espace familial.
Et en fait, nous devons faire gaffe les formes de violence dans cet espace.
Absolument. D'ailleurs, je fais un parallèle avec ce dont on parlait tout à l'heure, les témoignages que nous avons reçus avec Mesectech. Beaucoup de témoignages faisaient état d'agressions sexuelles qui avaient lieu au sein de la famille. Par de l'entourage plus ou moins proche de la femme en situation de violence. Absolument. Donc la famille, le domicile est un lieu de violence, est un lieu extrêmement violent.
Qui est censé être un safe space, c'est la famille.
Absolument, absolument.
C'est hallucinant. Il y a un sujet d'autre qui est très important dans le Maghreb, c'est les féminicides. Oui, d'ailleurs, il y a des boumf en Amérique latine, par exemple en France. Nous toutes, tu cumules le nombre de femmes qui ont été tuées.
Parce qu'elles sont femmes.
Exactement, parce qu'elles sont femmes. Ouais. Alors, le mot féminicide, je ne sais pas si je suis en Maghreb.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de disposition spécifique dans la réglementation, dans le code pénal, contrairement à d'autres pays où ça existe, où on va davantage protéger les femmes parce qu'on considère qu'elles sont plus vulnérables, donc il y a une réalité, et on va davantage sanctionner les violences contre elles qui peuvent mener au meurtre parce qu'elles sont femmes. Ça n'existe pas chez nous. Donc déjà, on le nomme. Dire qu'un féminicide, c'est un meurtre d'une femme parce qu'elle est femme, ça peut intervenir dans différents espaces. C'est important pour collecter des données là-dessus. Aujourd'hui, est-ce qu'on est capable de dire combien d'homicides sont commis contre les femmes parce qu'elles sont femmes? Voilà, avoir cette donnée, mieux comprendre cette réalité.
Est-ce qu'on est capable de trouver ce chiffre,
Bien sûr qu'on est capable. Ouais. Alors, est-ce que chez nous, c'est une réalité, mais dont on n'entend pas parler parce qu'on ne met pas les projecteurs dessus, ou est-ce que c'est moins une réalité que dans ces pays que je viens de citer? Je n'ai pas la réponse à cette question.
Le mouvement en Amérique latine, les Smithsonis, on a menos. Pas une de moins. Il y a un mardi de ou le mardi de en plus. L'élément déclencheur.
L'élément déclencheur, c'était une femme qui avait fait l'objet d'une agression terrible. Et ses agresseurs avaient essayé de maquiller cette agression en overdose. Et c'était finalement la goutte d'eau qui a fait déborder le vase parce que cette communauté était déjà extrêmement sensibilisée. Il y avait beaucoup d'affaires, beaucoup d'affaires de féminicides. Et celui-là, c'était celui en trop. Et ça a éveillé, créé ce collectif, créé ce mouvement très large. Alors, là, c'est intéressant parce qu'il y avait déjà une énorme sensibilisation faite en amont. Le problème qu'on a, si on revient à notre réalité marocaine, parce que c'est celle qui nous intéresse, c'est que les affaires de violence faites aux femmes, elles sont souvent traitées. On en a vu, on avait lancé une campagne avec Mesectech qui s'appelait Meshib Sif, parce qu'une femme avait fait l'objet une jeune étudiante avait fait l'objet d'un assassinat parce qu'elle ne voulait pas épouser un gars. Donc, le problème qu'on a fait au Maghreb aussi, et ça, j'interpelle nos amis journalistes, c'est la manière dont sont traitées les affaires. elles sont souvent reléguées dans la catégorie fait de faits divers.
Exactement.
Chouette, chez ces faits divers, les assassinats comme ça, c'est du... Ou bien, quand c'est dans le scope, quand c'est des féminicides au sens du crime commis au sein du domicile, c'est un crime passionnel. Ah. Et ça, on avait le même problème. Et un crime passionnel, juridiquement, il est considéré comme étant de moindre importance qu'un crime normal.
Oui.
Donc, il faut rappeler les choses. Un crime, c'est un crime. Un crime, c'est un crime. Et un crime, c'est pas un fait divers. Un crime contre une femme, c'est tout sauf un fait divers.
Bien sûr.
C'est une réalité sociale. Il y en a. On a lancé une campagne pour ça, pour Massacre, mais malheureusement, on a très peu de données pour mesurer l'ampleur du phénomène.
Je pense qu'en 2012, parce que nous avons devant le Parlement pour l'histoire de Amine. Et qui a donné lieu à l'article de loi.
La linéa, oui.
Et je me demande, wesh, il a marqué sur Routna, mais il y a un article de loi qui peut criminaliser ou être passible de peine, flhebs ou là, whatever, le féminicide. Ou que la notion de féminicide existe enfin.
C'est très bien que tu parles de l'affaire Amine. Moi, j'aimerais corriger un truc dans l'affaire Amine, parce qu'il y a un vrai malentendu sur ce dossier. On nous a fait croire, en fait, le discours ambiant, c'était de dire, au Maroc, une loi permet à un violeur de s'en sortir s'il épouse sa victime. Ça a donné lieu, c'était ça, Amine.
Oui.
Et donc, évidemment, tout le monde s'est insurgé en se disant, ah oui, Clébès, comment c'est possible? En réalité, cette loi n'a jamais dit ça. Et cette abrogation qui a été faite, en réalité, c'était juste pour calmer, effectivement, cette indignation collective. Mais en réalité, si cet article de loi était appliqué comme il aurait dû être appliqué, jamais il n'aurait permis à un violeur de s'en sortir parce qu'il épouse sa victime.
Alors pourquoi des violeurs ont
cet article réussi? Et on a hérité du droit canon, c'est-à-dire que c'est quand on a eu notre premier code pénal rédigé par les Français, ils ont repris un article qui existait d'ailleurs dans le code pénal français et qui visait quelle situation précisément? Il visait la situation d'un détournement de mineur par consentement. D'ailleurs, avec l'article, quiconque qui sans violence. C'est-à-dire qu'Aslan, s'il y a une violence, s'il y a un viol, tu n'es pas dans cet article. Donc, et je ne sais pas pour quelle raison, nos juges ont considéré que, on va l'utiliser pour...
C'est
ouf. Donc là, qu'est-ce que ça nous dit, Sarah? Ça nous dit qu'en réalité, le vrai chantier, il n'est pas dans le changement de la loi. Il y a quelques lois, effectivement, qui sont mauvaises et sur lesquelles on doit... je pense notamment à
490, 489.
Mais en réalité, il y a une sensibilisation à faire. Une sensibilisation de toutes les parties prenantes, des juges, qui doivent faire l'objet d'une formation continue. Et il y en a beaucoup dans plein de pays où on considère qu'il y a un vrai problème de prise en compte de l'impact des violences sexuelles sur les femmes. Finalement, on considère que c'est un rapport sexuel non consenti, il n'y a que les baisses, il n'y a pas mordant. Et on ne se rend pas compte, je pense qu'on ne prend pas la mesure de tout le chamboulement que ça peut créer chez les femmes qui en sont victimes. Tout le chamboulement psychologique, du désastre et du désordre que ça va créer dans leur vie, toute leur vie. Et ça, il faut...
Et qui va se répercuter sur ce qu'elle va avoir.
Qui va se répercuter sur toute leur vie, sur leurs enfants, sur...
Voilà.
C'est un séisme. Et tant qu'on ne le décrit pas, tant qu'on ne forme pas les parties prenantes et les personnes qui sont amenées à statuer sur ces questions-là, eh bien, on continue d'alimenter le problème.
Oui, on va revenir sur les viols. Quand je suis sortie de la loi de 2018, 103-13, on quantifie le nombre de viols, par exemple.
Nous, on a fait un travail avec Massactej en 2020, où on a été voir sur la base de données Mahakim. La base de données Mahakim. Mahakim, c'est une super base de données du ministère de la Justice.
C'est ça.
Qui te permet de savoir, de suivre sur cette base de données n'importe quelle affaire soumise devant les tribunaux au Maroc.
D'accord.
Avec un numéro de dossier. On a été épluché cette base de données pendant un mois. On a été épluché jour par jour, tribunal par tribunal. Toutes les affaires de violence faites aux femmes, que ce soit les affaires de viol ou les affaires d'agression sexuelle. On a trouvé, et donc ça nous donne une idée, c'est approximatif, mais on a trouvé 1169 affaires en cours. Ça donne à peu près une idée du stock qu'on peut avoir à un instant.
C'est très peu.
C'est extrêmement, extrêmement, extrêmement faible. Et sache, Sarah, que deux tiers de ces 1000 et quelques concernent des mineurs.
Des mineurs.
D'accord, donc qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que nos affaires ne sont portées devant la justice, en réalité, pas par les victimes elles-mêmes, par leurs parents, parce que c'est les parents qui veulent protéger leurs mineurs et qui se sentent dans l'obligation, à juste titre, d'aller porter l'affaire devant le tribunal, mais les femmes majeures qui font l'objet de violences sexuelles eh bien, elles n'y vont pas. Et pourquoi elles n'y vont pas? Parce que c'est un parcours extrêmement pénible. Et surtout, quand on voit la peine qui est appliquée à la fin, franchement, ça ne donne pas envie de subir tout ça.
Il a donné trois chiffres qui t'ont le plus marqué. Fgahed, ruina, les violences sexuelles, violences sexistes. Trois chiffres libres.
1169. Ouais. Celui-là, il nous dit, personne ne fait appel à la justice. On sait très bien qu'il y a beaucoup plus de violences sexuelles que ça. Ouais. Donc déjà, ce premier chiffre, il nous dit, les victimes de violences sexuelles ne vont pas s'adresser et ne vont pas régler leurs problèmes devant la justice. Donc, il y a un problème de dysfonctionnement. Le deuxième chiffre qui m'a marqué, c'est celui des deux tiers de ces plaintes qui concernent des mineurs. Donc, ça vient renforcer Hed. Troisième chiffre, c'est la durée de la peine. Et celui-là, il nous dit à quel point on a besoin de former nos juges.
On peut rappeler la durée de la peine?
La durée de la peine, quand c'est un viol, c'est 5-10 ans. Quand c'est commis sur une mineure, c'est au-delà de 10 ans. Donc, on a des peines qui sont quand même lourdes.
Heavy.
On laisse de côté les acquittements. Il y en a beaucoup. On laisse de côté les peines avec sursis. Il y en a beaucoup. On va dans les emprisonnements fermes, qui représentent même pas 20, les emprisonnements fermes pour des peines au-delà de 5 ans, elles représentent même pas 20% des cas. La grande majorité, la durée moyenne, je pense qu'on l'avait fixée à 3 ans et 1 jour.
C'est la durée moyenne.
La durée moyenne des peines. Et là-dedans, dans le portfolio d'affaires qu'on a suivi, il y avait des violences inouïes dans la description des faits. On s'est rendu compte aussi avec cette étude d'une chose extrêmement intéressante. C'est que le viol en tant que tel, le tarif, c'est pas énorme. En revanche, si une femme est victime de viol et que dans le même temps, elle va subir un coup, là, le gars, il va prendre cher.
Donc, qu'est-ce que ça
nous dit? Ouais. Mais qu'est-ce que ça nous dit? C'est que la violence liée à l'agression sexuelle en tant que telle est considérée comme étant de moindre importance qu'une violence physique.
C'est grave.
Et donc, on voit que, effectivement, quand il y a d'autres, par exemple, on a vu des cas de vol, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a eu un viol et un vol associé. Là, le mec va prendre cher.
Un viol et un vol.
Un vol.
Ouais. Le mec parce que ça, on met ça sur le coup du vol.
Ça vient aggraver. Et en réalité, le viol en tant que tel devrait être suffisant pour faire appliquer les peines qui sont prévues par nos textes, c'est-à-dire au-delà de 5 ans. Donc, et là, on a vu une jurisprudence récente, qui est très encourageante, et qui a déjà condamné à 10 ans de prison un accusé et reconnu un viol. Et le parcours de cette affaire est vraiment intéressant parce que ça avait commencé par une première condamnation de la victime et de l'agresseur au titre de l'article qui réprime les relations sexuelles hors mariage. Et puis ensuite, il y a eu une décision qui a révisé cette première condamnation et qui a considéré qu'en réalité, la femme victime de violence dans cette hypothèse avait une déficience mentale et donc elle ne pouvait pas consentir à cet acte et du coup elle a été évidemment acquittée des charges qui pesaient sur elle au titre de l'article condamnant les rapports hors mariage.
Bien sûr.
Et là son agresseur a été condamné à 10 ans de prison. Donc, cette décision elle est extrêmement importante. Pourquoi? Parce que premièrement elle remet le consentement au cœur de la définition du viol. Et deuxièmement, elle prévoit une sanction extrêmement lourde comparée à ce qu'on a pu observer avec l'étude Massacre.
La peine d'emprisonnement, les doutines, elle est entre 5 à 10 ans, parfois 10 ans et plus.
Jusqu'à 20 ans, oui.
Tu dis que je suis FIFA. Ou la laxiste.
Ce qui est laxiste, c'est comment elle est appliquée. Après, je ne suis personne pour me prononcer sur est-ce que c'est assez ou pas assez. Ça, c'est chaque victime qui estime est-ce qu'elle sent que cette condamnation a un caractère réparateur ou pas. Mais le problème, c'est que si seulement ces peines ont été appliquées, elles ne le sont pas. Elles ne le sont pas. On voit énormément de peines de sursis. On voit, même quand il y a des peines de prison ferme, elles sont inférieures au minima légal. Ça, moi, ça m'interpelle, ça me choque. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un juge qui estime qu'en fait, OK, la loi prévoit 5 à 10 ans, tu dois justifier que tu ne respectes pas la loi. La loi, elle te dit 5 à 10 ans. Il a une libre appréciation, le juge a une libre appréciation. Il a une appréciation souveraine, il n'est pas tenu. Ouais. Mais s'il estime qu'il y a des circonstances atténuantes, il peut aller en dessous. Ou les kinois, tous les violeurs du Maroc ont des circonstances atténuantes. Pourquoi on retrouve...
Mais c'est en lien avec cette notion de patriarcal.
Bien sûr, c'est culturel. Ouais. En fait, à la base de cette recherche, on s'est posé la question de quel est le tarif d'un viol au Maroc. Comment notre société, quelle est la réponse que notre société estime adéquate pour répondre à ce phénomène de violence sexuelle? Et la réponse, c'est que aujourd'hui, de manière institutionnelle, on considère que c'est pas si grave que ça. C'est aussi grave qu'un vol. Et donc, tout notre travail en tant que féministe, je suis une éternelle optimiste, c'est de dire, OK, bah, c'est qu'il y a un malentendu, en fait. C'est qu'on ne le comprend pas. C'est qu'on ne comprend pas à quel point c'est ravageur. Ouais. Et donc, notre rôle à nous, c'est de mettre la lumière sur ce qui ne va pas, sur qu'est-ce que ça, quel est l'impact, quelles sont les conséquences, pour éveiller les consciences. Mmh. Éveiller les consciences et faire en sorte que la réponse sociale à ce phénomène soit plus sévère. Et surtout, la prise en charge des victimes
et des survivants
soit meilleure.
Donc, tu as 3 filles. Si tu devais leur adresser un message pour qu'elles puissent survivre dans cet environnement qui est un carrefour chouïa. On s'en est sortis, je veux dire. Mais pour les prochaines générations, tes filles notamment, qu'est-ce que tu voudrais leur dire?
Moi déjà, j'essaye de les éveiller au fait qu'elles sont égales,
ouais.
Qu'elles sont fortes et que... elles doivent essayer d'identifier, j'arrive à le faire avec mon aînée qui a 8 ans maintenant, les deux autres sont vraiment toutes petites, c'est vraiment toutes petites, 2 ans et 6 mois. Mais identifier les situations où on essaye de l'hadro et l'ira, parce que c'est une fille. Et ne pas laisser faire ça. J'essaye de leur apprendre à lutter de manière positive. Je sais que ce qu'on se prend comme violence peut amener à une forme de révolte.
Exactement.
Mais j'aimerais qu'elles militent avec optimisme. Je pense surtout ce qui est important, c'est pas tellement de leur dire, c'est de faire et d'être un modèle en action. Voir que leur mère travaille, est active, voir que leur mère se bat aussi pour finalement cette cause-là, c'est, je pense, une forme de sensibilisation par l'action.
Je suis d'accord.
Voilà. Moi, j'ai envie qu'elles soient heureuses, qu'elles soient épanouies et qu'elles ne laissent personne les rabaisser parce que ce sont des femmes et qu'elles ont une chance inouïe d'être des femmes. Et j'essaye d'éveiller entre elles ce sentiment de sororité. Elles sont sœurs, pour moi, c'est une valeur cardinale dans notre lutte féministe. C'est cette sororité, cette puissance qu'on tire en se serrant les coudes les unes les autres. Moi, j'ai la chance de faire partie d'une famille de 4 sœurs et d'une femme qui rejoint et d'une femme qui est ma mère qui rejoint ce quatuor. Donc, on est 5 femmes. Et on sent cette protection mutuelle, on sent cette puissance, en fait, quand on se parle, quand on s'ouvre les unes envers les autres. Donc, pour moi, elle symbolise aussi cette sororité qui me tient énormément.
Ouais. Together we can do great things.
Yes.
Merci, Leïla.
Merci.
C'était vraiment trop cool de t'avoir sur le plateau. Did you enjoy?
Oh, definitely. Merci pour tout.
Rouena Kalbna, c'est
hyper cool. Absolument.
En tout cas, merci d'avoir
accepté. On
sent
revigoré et...
Mais tellement. Et c'est à chaque fois la même chose.
Absolument.
Et comme tu dis, c'est vraiment la sororité. Ça ne s'appelle pas sororité pour rien.
Absolument.
Merci.
Merci à toi.
De nous avoir nourris en plein de trucs.
Merci.
Quant à vous, merci beaucoup de nous avoir suivis. Il me plaît comme tu feras le jour, faites l'épisode Facebook, YouTube ou Instagram. Ou Tintolina, Deezer, Spotify ou Apple Podcast. C'était Solo Khiti.